Donc on ira deux amuse-bouches derrière les deux tombes. Deux amuse-bouches table 6.
Oui.
Pour moi, la cuisine démarre par l'olfactif énormément. Et ça, je veux le cultiver de plus en plus. C'est les odeurs, mais même quand je fais une sauce, je la respire. Et même avant de goûter, je sais si elle va être bien. Pour moi, une sauce et un parfum, c'est exactement la même chose.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Le Goût du Monde. Aujourd'hui, ici, les femmes sont à l'honneur. Les femmes cuisinières, chefs de restaurant, apprentis, commis, sommelières, maîtres d'hôtel, critiques. Les femmes qui travaillent dans le monde de la gastronomie, de la cuisine. Quelle est leur place? A-t-elle changé? A-t-elle évolué au fil des années? Comment? C'est ce dont on va parler. Pas d'opposition homme-femme. Le mythe du chef étoilé qui ne peut être qu'un homme ne sera pas démonté en un jour ni en une année. On est bien d'accord. Mais un regard sur la femme dans ce monde encore très masculin de la gastronomie. En France en tout cas, on le verra peut-être. Avec nous Julia Sedef-Djian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef cuisinière, chef étoilé. Le Guide Rouge vous a décerné cette étoile en 2016 lorsque vous dirigiez les cuisines du restaurant Les Fables de la Fontaine dans le 7e arrondissement de Paris. Là, c'est toute une nouvelle aventure qui va s'ouvrir puisque vous ouvrez très très prochainement, demain, ce restaurant dont vous serez donc la boss, la chef. Au propre comme au figuré, chef des cuisines et patronne, restaurant qui s'appellera comment ?
Le restaurant s'appellera Bayetta, qui signifie bisous en patois niçois, parce que je suis niçoise, j'ai vécu 17 ans là-bas, donc c'est le petit clin d'œil.
Donc Bayetta, au cœur de Paris.
Voilà.
Esther El Payeni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, chroniqueuse gastronomique à la radio, donc le micro ne vous fait pas peur, et critique gastronomique pour l'hebdomadaire Télérama. Grâce à vous, l'on découvre chaque semaine de nouvelles adresses, de nouvelles tables, à Paris, mais pas que, on est d'accord. Et puis nous avons le plaisir d'avoir avec nous également une invitée, je ne mâche pas mes mots, une icône de la gastronomie française. Bonjour Olympe Versini.
Bonjour.
Et vous êtes aussi, vous, une femme cuisinière.
Oui, je crois.
Chef étoilé, propriétaire de votre restaurant
oui.
pendant 45 ans, auteur de livres, vous avez participé à des émissions de radio, des émissions de
oui,
télé.
De télé oui.
On ne pouvait pas en fait se passer de vous dans les années 70, vous étiez un
70,
peu incontournable.
70, 80, 90, oui.
Voilà, vous étiez...
Ouais, c'est vrai.
Il y avait le monde et puis il y avait...
Il y avait peu de femmes. Oui.
Justement, c'est la question que je me posais. À quoi ressemblait le monde de la gastronomie quand vous, vous avez été étoilé, quand vous êtes devenu chef?
Écoutez, moi j'ai eu de la chance d'ouvrir mon restaurant à 23 ans, donc assez tard. Je n'ai travaillé dans aucun restaurant précédemment. J'avais fait un petit peu de droit. Et si vous voulez, j'arrivais, donc j'étais chez moi. J'avais une liberté totale. Parce que j'étais chez moi, personne sur mon dos. Ça, c'était intéressant. C'était exclusivement ou un monde... de très vieilles femmes,
oui,
ou un monde d'hommes.
En 79...
C'est-à-dire, il y avait la fin des mères, un petit peu.
Des mères lyonnaises, donc c'est
ou des femmes qui avaient fait des restaurants sur le tard, en ayant eu des métiers avant. Voilà, c'était ça.
Et pas d'autres figures. Vous étiez vraiment, non seulement jeune, femme, vous aviez plein de sujets qui vous sortaient un peu de l'ordinaire,
oui,
alors, dans ces
puis,
cas-là
Sans doute, comme je n'avais aucune contrainte dans mon restaurant, j'y faisais la cuisine que je voulais, que j'aimais. J'avais pas appris la cuisine. En fait, j'étais née en cuisinant, presque. J'ai commencé à aimer les produits, j'avais 6-7 ans, voilà.
D'accord. Donc chef autodidacte, un petit
complètement.
Peu.
Complètement.
Ce qui n'est pas du tout votre cas, Julia Sedef-Djian, parce que alors on se dit, étoilé, 21 ans, fulgurant, ascension extraordinaire, mais on oublie une chose, c'est que votre apprentissage, vous aviez quel âge quand vous l'avez commencé?
J'ai commencé mon apprentissage à 14 ans, moi.
Comment est-ce que vous vous êtes lancé justement dans un parcours? Parce que j'imagine qu'on se lance pas par hasard dans ce parcours-là de la cuisine, d'aller, puis avec peut-être dès le début, cette idée de devenir chef, cuisinière? Racontez-nous.
Non, mais j'ai toujours été très gourmande, j'adore manger, j'adore les repas de famille. Et à 14 ans, j'ai dit à ma maman, je sais ce que je veux faire de la cuisine. Il faut que je fasse un métier avec mes mains et j'avais envie de responsabilité, d'autonomie. Et je me suis lancée dans la cuisine à 14 ans, dans un restaurant à Nice... où on m'a tout appris, où j'ai été responsabilisée, où j'ai grandi avec eux, parce que bon, ils avaient 25 ans, j'en avais 14, donc j'ai grandi un peu à vitesse grand V, et j'ai essayé de pas me perdre dans tout ça, mais L'apprentissage, c'est très important pour moi. C'est les années que j'oublierai jamais. C'est là où j'ai découvert les produits, les goûts, les saveurs. Donc, ça m'a marqué, quoi.
Donc, vous regarderez peut-être Olin Versini en se disant, c'est dommage qu'elle n'ait pas vécu. C'est...
Ah non, mais pas du tout. Chacun son parcours et chapeau, parce que c'est pas facile d'apprendre.
C'est pas facile, et en même temps, c'est une énorme liberté. Il y avait un cuisinier qui s'appelait Girardet, et ça avait été un des cuisiniers qui m'avait le plus marqué au début de ma carrière. Et il m'avait dit, toi, tu as de la chance, parce que tu n'as pas besoin d'oublier. Moi, j'ai une formation comme ça, il a commencé très jeune, et il a fallu que j'oublie tout pour refaire une cuisine qui lui appartenait. Et moi, c'était pas le cas, donc... Ça peut être aussi une force, les deux, parce que l'apprentissage aussi. Moi, l'apprentissage, je l'ai fait de par moi-même, à mon idée. Alors, j'aurais pu peut-être gagner du temps, je ne sais pas. Moi, j'ai cuisiné à l'instinct, toujours. J'ai jamais lu de livres de cuisine. J'en ai écrit quelques-uns pour me souvenir des recettes, parce que je les oubliais. Je les oublie, j'en fais d'autres. C'est mon parcours, quoi.
Quand vous entendez ça, Julia, Estherelle Payani, qu'est-ce que ça vous évoque, cette liberté ? Incroyable.
Mais c'est bien. Il faut se sentir libre en cuisine. C'est un métier d'expression. Donc, si on met pas ce qu'on ressent dans l'assiette, je pense qu'on n'arrive pas vraiment à toucher nos clients. Donc, moi aussi, j'essaye de pas mettre de barrières. Et même si j'ai été étoilée et que je cherche l'étoile pour Bayetta, j'essaye de pas mettre de barrières, de me dire fais ce que t'as envie de faire et puis ça marchera. Si c'est bon, ça marchera.
Le travail des cuisiniers, c'est vraiment entre la contrainte et l'expression. Et en ce moment, il y a la tension entre les deux, justement, savoir bien faire selon les règles. Et c'est l'importance de l'apprentissage quand on démarre en cuisine aussi. Il faut acquérir une agilité avec les doigts, apprendre des bons réflexes, gagner du temps. La découpe des légumes, ça sert pas à rien, on gagne du temps. Mais il n'y a pas peut-être qu'une manière de la faire. C'est vrai que c'est cette tension qu'on sent entre les générations de cuisiniers, mais aussi dans l'apprentissage et dans la manière de voir les restaurants. Et les femmes, historiquement, elles ont toujours été responsables de leur restaurant. Comme ça marchait pas forcément, on les attendait pas à la tête de brigade traditionnelle, elles allaient pas attendre qu'on leur donne le bâton de maréchal, elles ont dit je fais mon restaurant, je suis chez moi, et quand je suis chez moi il y a personne qui me peut me dire, ça va pas.
Pour une question d'ailleurs très pratique à l'origine aussi, les femmes ouvraient leur restaurant parce qu'il fallait qu'elles gagnent leur vie.
Tout à fait.
Donc on était cuisinières, on ouvrait boutique, on ouvrait son restaurant, et au fur et à mesure, je crois que les mères notamment, c'est le cas, les mères lyonnaises.
C'est tout à fait ça, ça a été vraiment un trou dans l'espace-temps. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps un historien, Denis Saillard, qui me disait qu'en fait, on montre les mères lyonnaises comme un exemple qu'on porte au pinacle. Mais il dit, mais en fait, c'était l'exception. Il faut voir ça, effectivement. On a raison de revenir sur cette période, mais il faut voir que ça n'existait pas avant, ça n'existait pas après, et que le personnage dans le festin de Babette, vous vous souvenez au début du festin de Babette ?
Non, je ne m'en souviens plus.
Elle arrive et elle dit qu'elle était la chef du grand hôtel. C'est pas possible. À cette époque-là, quand elle débarque en Suède, il n'y avait aucune femme chef dans un grand hôtel. Elle aurait adoré ça, certainement, Karine Blixen. C'est un bon point de départ, mais historiquement, c'est un non-sens. Il n'y avait pas de femme chef, de grande brigade, ce n'est pas vrai.
Chef aujourd'hui, pourtant des femmes chefs, il y en a de plus en plus, parce qu'on fait davantage attention à elles peut-être. On va prendre juste l'avis de Paz Levinson. Alors, elle est sommelière, elle est argentine. C'est l'une des stars aujourd'hui dans le monde du vin. Meilleure sommelière des Amériques en 2015, quatrième au concours de meilleur sommelier du monde, un métier pourtant, en tout cas, souvent considéré comme très masculin, qui ne l'est pas cependant en Argentine. Et c'est bien ce qui a provoqué sa surprise quand elle est arrivée en France.
Oui, j'étais choquée parce que ça dépend aussi de l'arrondissement et ça dépend les styles de restaurants et les niveaux de restaurants.
À Paris.
Mais c'est vrai qu'il est en 3 étoiles. Les clients, il y a plus de confiance avec un homme sommelier qu'une femme. Et c'est ça parce que tous les tables que je suis allée pour prendre la commande pour suggérer des vins. Suivante, ils ont dit, ah non, je voudrais parler avec les sommeliers.
Sous-entendu, ce n'est pas vous.
Sous-entendu que j'avais un grappe bien grand, un signe pour montrer que j'étais sommelier. Mais les personnes, les Français surtout, voudraient pas de confiance, les mêmes confiances qu'avec un homme. Et en plus, que je suis étranger. Donc, étranger qui parle pas super, qui
avec
parle pas bien français.
Charmant.
Et qui fait les conseils des vins français. C'est pas possible. C'est pas possible d'un 3 étoiles.
Non posture.
Et en plus, j'ai aussi des amis coréens qui sont sommeliers. Et imaginez-vous, coréenne, femme, et dire les conseils de les vins français. C'est quand même,
c'est un non-sens pour beaucoup.
Je comprends que c'est, que, mais, dans notre pays, comme l'Angleterre, ils demandent pas de où je viens, de pourquoi j'ai l'accent, et les femmes, ils vont et ils prennent les commandes et c'est tout, non? C'est naturel.
Paz Levinson, sommelière, qui sera bientôt d'ailleurs aux côtés d'Anne-Sophie Pic, dans le groupe Pic, puisqu'elle vient d'annoncer son arrivée chez cette femme française triplement étoilée, un groupe, un très joli groupe. Paz Levinson, qui était invitée de 7 milliards de voisins pour parler du film À la recherche des femmes chefs, dont nous parlerons également. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous voyais, Olympe Bersigny, tourner la tête, quand vous écoutiez Paz Levinson. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Écoutez, ça me révolte, mais il faut voir que c'est la réalité et que c'est encore la réalité aujourd'hui. Malgré que ça ait changé et qu'il y a plus de femmes chefs, c'est vrai, c'est toujours aussi difficile. Et quand on voit les photos, par exemple, de la sortie du Michelin, il y a simplement Anne-Sophie Pic qui vient remettre je ne sais quoi, un trophée quelconque.
Elle était marraine. Elle était marraine. Ils ont créé une nouvelle fonction pour les premières étoiles.
On voit tous les grands chapeaux là derrière, qui sont un peu ridicules d'ailleurs, on ne peut plus supporter ces grands chapeaux. Et c'est tout. Et quand on voit aussi l'enterrement de grands chefs, c'est une confrérie de trois étoiles qui passent devant, qui s'installent, et bon, ça tourne au ridicule.
Chercher la femme.
C'est très très français quand même, j'ai l'impression, cette approche-là. Julia, vous, est-ce que vous, c'est quelque chose, on a dit qu'on n'allait pas se lancer dans l'opposition homme-femme, parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est de voir comment les choses changent, si elles évoluent, vous, dans ce que vous êtes, dans le restaurant que vous allez ouvrir, ça vous donne quoi comme opportunité, justement? D'être patron, est-ce que justement ça vous donne cette liberté dont on parlait au tout début de l'émission?
Oui, bien sûr, ça me donne une liberté. Maintenant, moi j'ai la chance de m'associer avec mon sous-chef et mon directeur de salle, qui sont deux hommes, et avec qui je travaille depuis 6 ans, avec qui on s'entend super bien, on a les mêmes visions de business, de la cuisine, de la gourmandise. Et voilà. Moi, en tant que femme, j'ai jamais souffert de tout ça. Donc j'espère que c'est en train de changer, parce que vraiment, on m'a toujours pris sous son aile. J'ai toujours été un peu la petite sœur, celle à qui on a envie de montrer des choses, de faire évoluer. Et aujourd'hui, moi, en tant que chef, j'ai énormément de femmes qui viennent travailler avec moi.
Julia, excusez-moi de vous contredire, mais je crois qu'il me semble que vous m'avez dit en interview il y a longtemps qu'il y avait un restaurant, par exemple, où il fallait même pas envoyer son CV quand vous étiez en apprentissage, parce qu'on disait il y a pas de femmes qui travaillent ici. Vous n'avez pas souffert directement, mais en gros, on sait que c'est pour dire qu'il y a vraiment des endroits où vous-même vous l'avez constaté, et ça veut dire que ça a moins de 10 ans cette histoire. Où on disait il y a pas de, on n'accepte pas de femmes.
Parce que c'est un vieux chef, parce que c'est un vieux restaurant. Aujourd'hui, en 2018, j'espère que tout ça c'est en train de changer.
Olympe, ça vous étonne ou ça ne vous étonne pas?
Non, ça m'étonne pas, parce que moi aussi, quand j'ai commencé, bon, moi j'avais cette liberté, personne ne me disait rien, je faisais ce que je voulais chez moi, évidemment. Je ne sais pas si j'avais voulu travailler chez des confrères et ils m'auraient accepté, je ne crois pas. Deuxièmement, j'ai pensé que dans les années, disons, 80, il y aurait une énorme ouverture par rapport aux femmes. On voit que ça n'a pas du tout été le cas. Mais malgré tout, si on prend attention, je me base sur les trois étoiles. En même temps, c'est pas une finalité dans l'histoire de la cuisine, heureusement, parce que la cuisine c'est autre chose que les trois étoiles. Et les trois étoiles, ça a tendance à enfermer le cuisinier, à le phagocyter. Et en plus, il y a quelque chose de très étonnant. Lorsque j'ai commencé, on ne parlait absolument pas de resto gastro dans l'hôtellerie. C'est-à-dire, on n'allait jamais manger dans un hôtel parce que c'était un très bon restaurant. Ça n'existait pas. Petit à petit, le temps a fait que, justement, les hôtels de luxe ont eu les moyens d'avoir de grands chefs et d'avoir des étoiles. Mais un chef qui rentre dans un hôtel de luxe, il a une liberté extraordinaire. Il a la liberté de l'argent. Vous vous rendez compte? Il peut avoir le personnel qu'il veut. Aujourd'hui, il peut acheter les produits qu'il veut, parce que le restaurant peut perdre de l'argent, ça n'a aucune importance.
Mais quel ennui, il est forcé de mettre du caviar et de la truffe.
Voilà, et il en met sans arrêt. Mais c'est plus facile dans ce lieu-là d'obtenir justement ce ces saintes étoiles.
Je me souviens d'une émission dans laquelle vous étiez rendu, ça s'appelle Apostrophe, en 1982. Alors, un plateau extraordinaire. On parlait de la nouvelle cuisine. Et je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais moi, je les ai découvertes, en fait. Et alors, c'est énorme, parce qu'il y a Fernand Dallard, qui est une autre figure de la cuisine dans les années 70, face à vous.
Mais qui était plus âgé que moi.
Qui était plus âgé que vous. Et autour de vous, alors, on a un plateau extraordinaire. On a Paul Bocuse, Sandorins, Héberlin Père, je crois. J'ai encore même oublié.
Girardet.
Girardet, exactement. Girardet. Donc, nous avions, alors, tous ces hommes, ils n'avaient pas de toque, mais bon, ils avaient le col 3 étoiles, et on avait toute la gastronomie, et vous, qui disiez juste vous présenter, ben, je m'appelle, voilà, Olympe, bah oui, Olympe, j'ai 6 prénoms, donc j'ai choisi Olympe.
Vous avez une mémoire incroyable.
Et, non, ben, ce que j'ai découvert, il y a une, j'utiliserai pas le mot de fraîcheur parce que c'est pas le cas, mais on voit bien qu'il y a toute une société très dogmatique, un carcan qui est lié, qui est complètement ancré encore dans cette idée d'Escoffier, des règles qui ne doivent pas. Et vous, vous avez lancé la bistronomie. Oui. Le début aussi de cette liberté dans les cuisines. Je sais pas ce que vous en pensez, Julia Sedefjian, mais le bistrot, la gastronomie, faire de la très bonne cuisine dans les bistrots, c'est ça aussi. C'est, ça permet aussi aux femmes de s'exprimer et de les gagner. Ces étoiles et de les avoir et de se faire voir. Qu'en pensez-vous, Julia Sedefjian ?
Non, mais oui, il y a la bistronomie, il y a la gastronomie, mais l'essentiel, c'est de faire de la bonne cuisine, oui. L'important, c'est de pouvoir s'exprimer, de trouver des personnes qui nous font confiance aussi, ou de se lancer, de dire « j'ouvre mon restaurant ». Mais les femmes, aujourd'hui, il faut qu'elles commencent à prendre des postes à responsabilité aussi dans des établissements, que ça soit bistrot, gastro, peu importe, mais juste qu'on leur fasse confiance aussi. Parce que ça se fait pas tout seul. Aujourd'hui, dans un 3 étoiles, on fait pas forcément évoluer une femme pareil qu'un homme. Peut-être que la femme va mettre 3 ans de plus à obtenir un poste de sous-chef dans un 3 étoiles qu'un homme.
Mais vous pouvez l'expliquer, ça ? Pourquoi ? Parce que moi qui ne suis pas de ce monde-là, moi qui suis une gourmande comme vous, moi je comprends pas. Pourquoi ? Quelles sont les raisons objectives et des obstacles à ça ? Comment on l'explique ?
C'est difficile dans les grandes maisons, le fonctionnement n'est pas pareil. Moi, je pense que en tant que femme, on va plus vite évoluer dans une petite maison parce que on peut toucher à tout et que on vous considère vraiment comme tout le monde au final. Il y a pas de guerre. Déjà dans un 3 étoiles, c'est complètement différent. La brigade,
enfin, c'est la tout le monde. La brigade joue un gros rôle, non? La taille aussi, le nombre.
Ah, bien sûr.
Bah, c'est une entreprise, déjà.
Bien sûr. Quand on est 30 en cuisine ou quand on est 7, c'est pas pareil. Enfin, on fait pas les mêmes choses. Quand tu rentres dans un 3 étoiles et que t'es commis pipette ou commis herbe, ben, vas-y, il faut te faire entendre pour dire, aujourd'hui, ça fait 3 mois que je fais les herbes, j'en ai marre. Allez, il faut me faire le thermomix aujourd'hui. Enfin, non, mais moi, j'ai jamais voulu te faire de grandes maisons pour ça. Parce que j'ai fait mon apprentissage dans une petite maison et j'ai tout de suite touché à tout. Mais c'est bien, il y en a qui sont faits pour ça. Hein, mais moi, de ma vision, je me dis, je préfère être dans une petite maison et pouvoir toucher à tout et évoluer. C'est comme ça que, enfin, je suis arrivée à Paris à 17 ans. J'ai été commis. 6 mois après, j'étais sous-chef d'un restaurant étoilé. Mais parce que j'étais là en cuisine et mon chef a vu ce que je valais et j'ai tout donné pour ça. Mais dans une brigade de 30%, je mets ma main à couper que j'aurais jamais été sous-chef à 18 ans.
Bien choisir où on fait son stage, hein. On se souviendra de ça. Bien choisir où on commence. C'est important, Estelle Payet.
Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, est-ce que la cuisine, ce n'est que les chefs étoilés? Absolument pas. Déjà, il faudrait que les médias ouvrent les yeux en s'intéressant à toute forme de cuisine et pas en se focalisant uniquement sur les étoilés.
On va en parler.
C'est très bien, c'est très très bien, hein, les étoilés. Mais c'est comme la course. Il y a ceux qui sont faits pour faire des sprints et ceux qui sont faits pour faire des marathons. Et les deux, c'est des coureurs. Les chefs, c'est pareil. Il y a ceux qui veulent faire la course aux étoiles. C'est très bien, ou pas la faire, et on les décerne quand même, et c'est très bien pour eux. Et puis, à ceux qui font des cuisines du monde entier, et là, on trouve beaucoup, beaucoup de femmes dans les cuisines du monde. C'est là, souvent, qu'on déniche de vraies pépites, et des super talents, ou dans des bouibouis à 15 euros. Et c'est ça qui est fantastique. Et c'est dans cette diversité-là qu'on va trouver beaucoup de femmes. Et il faut vraiment qu'on change de lunettes sur la gastronomie. C'est avec ça qu'on a travaillé beaucoup avec Vérane.
Alors, ne bougez pas. Le temps d'attraper un café. On a terminé les nôtres. Un verre d'eau. De prendre surtout quelques nouvelles du monde. Et l'on se retrouve. Les femmes chefs ont-elles leur espace sur les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux, Internet, la télévision, la médiation, tout cela, est-ce que ça change la donne ou pas? On se posera la question dans quelques minutes.
Je suis venue à la cuisine en 1927-28. Je suis rentrée chez Madame Brasier, où je suis restée 15 ans. Là, j'ai eu une formation, on peut dire,
très profonde, surtout de la conscience que l'on doit apporter dans notre métier, qui nous permet d'avoir toujours de la marchandise excessivement fraîche et très bonne et de première qualité.
I want to be a chef, but not just a chef, I want to be a great chef.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur RFI, bien sûr, vous écoutez Le Goût du Monde. Les femmes sont à l'honneur aujourd'hui, des femmes chefs sommeliers, maîtres d'hôtel, des femmes dans le monde de la gastronomie. Femmes chefs, se diront certains, voyons. Oui, femmes chefs, ça existe, il y en a même beaucoup, il n'y a pas à chercher tellement que cela. Avec nous aujourd'hui, Estherelle Payani, vous êtes critique gastronomique pour l'hebdomadaire Télérama, donc chaque semaine on découvre vos nouveaux tables et vos coups de cœur, notamment. Olin Versini, cuisinière, chef, icône de la gastronomie française, La Cuisine d'Olympe, un livre que l'on trouve dans bien des cuisines, y compris dans la mienne, je l'avoue. Et Julia Sedevdian, jeune chef en pleine ascension, une étoile pour bagage, entre autres, et bientôt un restaurant tout nouvellement ouvert, puisqu'il ouvre demain, c'est Bayetta, qui se trouvera en plein cœur de Paris, dans le 5e arrondissement, dans le quartier de Saint-Germain. On est bien au-delà du mythe et de la réalité. Est-ce que la cuisine française, elle a du mal à se dépoussiérer, à se moderniser, à passer outre, justement, cette garde-là, cette espèce de cadre figé?
Le chef français reste dans l'imaginaire un homme blanc.
Mais ça reste un imaginaire.
Il a été perpétué de la sorte et c'est un stéréotype. Après, on va pas réinventer ce que disait Bourdieu dans La Domination Masculine. Les femmes qui cuisinent, c'est des cuisinières et c'est gratuit. Dès que c'est un homme, ça devient un métier, c'est sérieux. Olympe l'a dit, elle est née en cuisinant, mais les hommes, ils apprennent à l'école. On est en 2018, on peut passer à autre chose et on peut être femme et diriger une brigade de 60 personnes ou estimer que c'est mieux d'avoir son resto et de faire ce qu'on veut dedans. L'important, c'est d'avoir ce choix-là.
C'est un peu l'idée, Julia Sedevdian, en ouvrant Bayetta, ou pas?
Oui, mais je l'ai pas fait que pour ça. Clairement, je l'ai fait parce que c'est le moment, que j'ai rencontré les gens pour le faire aussi et que je me sens prête, parce que je crois que c'est quand même un bel investissement. Enfin, ça fait peur aussi, mais aujourd'hui, je me sens prête. Il y a 2-3 ans de ça, je disais, ah non, moi, ouvrir un restaurant, pas avant mes 30 ans, c'est trop de responsabilités, je suis bien en tant que chef, j'ai déjà assez de responsabilités comme ça. Et puis, au final, on sait jamais quand ça va arriver, c'est juste, il y a des opportunités, et quand on peut les saisir, on fonce. J'aime bien les challenges, donc...
Là, votre ventre, il est comment en ce moment là, vous...
Ah, j'ai plus de ventre. Mais ça va, j'ai l'impression que 23 ans, c'est un âge qui porte bonheur. Vu que oui. Olympe a ouvert son restaurant à 23 ans aussi. Donc.
Vous êtes passée comment d'ailleurs, de cuisinière à chef? Est-ce qu'on vous appelait chef déjà?
Parfois, mais je n'ai jamais demandé ce qu'on m'appelle chef. On m'appelait souvent Olympe. Chef rarement, mais c'est arrivé. C'est surtout, si vous voulez, plus toutes les brigades japonaises que j'ai eues. Oui, là c'était chef parce qu'on avait dû leur dire... on appelle chef. Après, il y a parfois des personnes que j'ai eues en cuisine qui avaient du mal à dire chef à une femme. C'était ça. Mais ça m'a jamais dérangé. Et j'ai jamais obligé les gens qui travaillaient avec moi, les personnes qui travaillaient avec moi, à m'appeler d'une manière ou d'une autre. Ils m'appelaient comme ils voulaient.
Vous n'en avez jamais fait un point d'honneur, en tout cas.
Sûrement pas.
Comment vous appelle, Julia Sedevdian?
Moi, on m'appelle chef depuis tôt. Quand j'ai pris la place de sous-chef à 18 ans, mes collègues ont décidé qu'ils m'appelleraient chef. Et au début, j'ai dit non mais les gars, déjà vous avez 50 plus que moi et puis j'en veux pas, enfin c'est pas ça qui... Ils m'ont dit non, on va mettre les barrières parce qu'on est très proches et qu'on avait tous grandi, évolué dans la même maison.
Donc parmi vos deux associés en fait,
exactement.
Avec Bayetta.
Et au début j'ai trouvé ça très très dur, je me suis dit mais... C'est pas pour moi, j'aime pas ça. Et en fait, effectivement, ça crée des barrières et ça me permet aussi de d'évoluer avec mon équipe, mais sans que on passe la limite de voilà, il y a la hiérarchie en cuisine qui est super importante et c'est bien pour qu'ils comprennent que ils sont pas là pour me marcher dessus quoi.
Ça permet de poser les choses.
Ouais.
Les choses sont claires.
Mais ça empêche pas que on boit un café ensemble le matin, qu'on se raconte des blagues quand on a envie, mais quand c'est sérieux, voilà, on passe un... Ça met les barrières, c'est bien.
J'aimerais bien qu'on m'appelle oui, chef.
C'est toi qui as le dernier mot en cuisine. On fait ce que tu dis. Moi, j'ai interviewé beaucoup de chefs en cuisine qui me disaient que dans des plus grosses brigades, elles ont eu du mal à se faire obéir en tant que sous-chef et qu'il y en a eu qui avaient des blagues. On leur disait oui, maman. Elles disaient mais non.
Ah, quelle horreur.
Mais c'est des femmes jeunes que j'ai interviewées il y a peu pour Télérama. Et elle me disait, il y a des hommes qui ont une réticence naturelle à l'autorité féminine. C'est pas le cas de tous, hein. Et puis, comme Julia vous le disiez, ça dépend de la brigade qu'on a en face. Mais elle, elle avait vécu des cas où elle disait, mais pourquoi l'homme chef, il demande quelque chose en cuisine, il obéit à la minute. Si c'est moi, je dois le demander trois fois. Il y a tout ce rapport à l'autorité et la femme qui pose question à beaucoup d'hommes, qui les renvoie à leur mère. Hein. Ça,
d'ailleurs, c'est l'autorité et la femme, parce que c'est un général, problème que rencontrent toutes les femmes chefs, qu'elles soient chef d'entreprise ou d'autres secteurs. Il y a un film qui parlait des femmes en cuisine dans le monde, que vous connaissez bien, Esther El Payani, des chefs, des sommeliers, des étoiliers, des cuisinières de rue également, ce documentaire. C'est Vehrehan Fredyani qui l'a réalisé, À la recherche des femmes chefs, c'est comme ça qu'il s'appelait. Il est sorti en juillet l'année dernière. Il a fait du bruit, il est présenté encore aujourd'hui dans les écoles, on le débat, il sort tout juste en DVD. Et j'ai demandé à Vehrehan Fredyani si cette question de la place des femmes chefs était une question que l'on s'en pose ailleurs qu'en France.
Alors, je crois que c'est un sujet dans le monde anglo-saxon parce que les femmes sont décomplexées, aussi bien en Angleterre où je vis, ou aux États-Unis, au Canada. Les femmes sont décomplexées, elles osent et elles ne comprennent pas pourquoi en face les investisseurs ont encore tendance à les ignorer ou à moins investir sur elles, pourquoi les médias les ignorent. Alors, je crois que en ce sens, elles montrent la voie. Malheureusement, en France, on a une tradition très ancienne dans le monde de la gastronomie, dans le monde du vin, et on a du mal en fait à avancer et à faire changer les choses, à faire changer les mentalités. On ne veut pas reconnaître qu'il y a toujours eu des femmes chefs en cuisine, qu'il y en a de plus en plus, on ne veut pas le reconnaître, on reste sur des vieux principes, des vieilles certitudes, et malheureusement ça fait beaucoup de mal à l'international, parce que depuis des décennies, l'influence de la gastronomie française a influencé les gastronomies de par le monde, par ses techniques, par son approche des ingrédients, mais aussi par l'image du chef qu'elle a construite. Et cette image du chef français, elle est masculine. Voilà, et ça a fait beaucoup de mal. Et en fait, à l'international, on voit bien que plus les gastronomies reprennent du local, reprennent du galon et
s'affranchissent
de l'influence française, plus les femmes, finalement, ont une place légitime et tranquille dans la gastronomie. Voilà, complètement normal. Et depuis quelques semaines, on est parti en cherche les femmes chefs de France. On s'est rendu compte que elles ont des sites internet où elles ne précisent pas leur nom, ou si souvent elles n'ont même pas de site internet. Elles sont souvent dans des campagnes, dans les auberges. Effectivement, ça donne une réalité sociale en fait à la femme chef en France, et une importance aussi quant à l'image de la gastronomie qu'on envoie à l'international, parce que tous ces touristes qui passent en France l'été, on est ravis de dire qu'on est le premier pays touristique au monde. Où vont-ils manger? Dans les petites auberges, dans les petits villages. Et là, ils tombent sur beaucoup de femmes, en fait. Donc, on a une fausse image, nous, des femmes chefs de France, parce que finalement, elles sont nombreuses, mais en plus, elles participent énormément à l'image de la gastronomie française vis-à-vis des touristes, et donc à l'étranger. Donc, qui cuisine dans la sphère privée? Tant que ce sera mondialement, majoritairement les femmes, on aura du mal à envisager qu'une femme puisse en faire un métier. Bien sûr, la France a eu une mauvaise influence. Il y a les pays qui s'en sortent beaucoup mieux. Mais si vous pensez, en gros paquet, l'Asie, l'Afrique sont quand même des régions dans le monde où la femme chef de profession a quand même du mal à être reconnue, à exister. La remise en question de la place de la femme dans la gastronomie, c'est vraiment une remise en question de la place de la femme dans la société. Professionnel, privé, tout est lié. Et je crois que on peut dire que la France a une mauvaise influence, bien sûr, mais de par le monde, je pense qu'il y a d'énormes progrès à faire.
Olympe, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Je ne me rends pas compte qu'il y a autant de femmes chefs en France par rapport à la province et aux petits villages dont on parle.
Parce que ces femmes chefs, en fait, elles savent très bien faire, mais elles ont du mal à se mettre en avant et à faire savoir ce qu'elles font. Vous avez été Olympe Versigny dans des émissions de télévision. Peut-être que d'ailleurs, a posteriori, c'est pas forcément une expérience qui a été formidable pour vous. Les émissions de télé, les émissions de radio, vous étiez partout, mais on vous voyait. Et c'est le fait de vous voir aussi, ça participe, être vu, être connu, on parle de soi, ça participe de tout cela.
Mais il est évident qu'une personne, que ça soit plutôt une femme, c'est assez difficile si elle n'est pas secondée. C'est comme un artiste. Un artiste, il a besoin d'être vendu. Et les hommes, malgré tout, ont été les premiers à prendre, et ça s'est fait dans les années 70, à prendre des attachés de presse pour se faire connaître. Ça a été les premiers, c'est-à-dire que Sandrins, Gilbert Lecaux, Bernarda à New York, etc., ils avaient tous des attachés de presse.
Il faut avoir aussi une certaine taille d'établissement pour laisser son établissement et dire « je prends 2 heures pour aller faire ci ou
oui,
ça ».
Oui, c'est pas cela toujours étant une dit, ressource c'est, facile. C'est une histoire de communication et de savoir parler de soi.
Mais c'est aussi une histoire de médias, parce que avec nos baskets, on peut aller les chercher, les femmes chefs.
Julia Sedelbian, j'imagine que vous avez autre chose à faire que d'aller regarder un peu quelles sont les émissions culinaires qui pourraient vous inviter ou et quoi que ce soit. Moi, je suis venue vous chercher via votre attaché de communication. Vous n'avez pas le temps?
On n'a pas le temps, mais si on s'écoute, on n'a jamais le temps et on reste dans notre cuisine. Il faut savoir prendre le temps aussi. Mais moi, je me dis, je pense que la femme n'est pas conçu pareil qu'un homme à un moment. Tant qu'on est dans notre cuisine et que notre restaurant marche, pourquoi on dirait « Je suis là, venez me voir voilà. !» Enfin, je crois qu'il y a aussi de ça. La femme ne réfléchit pas pareil. Quand elle entreprend pour elle. Elle entreprend pour se prouver des choses à elle, mais... Sinon, pourquoi les femmes se réunissent pas et disent bon, on est là quoi, parce qu'on n'a pas envie de le faire.
Moi, j'estime que c'est mon job en tant que critique d'aller chercher des femmes, de les mettre plus en avant.
Justement.
C'est une démarche volontaire. Ça m'a pris un petit moment pour le réaliser. Je travaille pour Télérama depuis 2 ans et demi, et quand j'ai commencé la rubrique restaurant, j'ai commencé en suivant un peu les marques de mon prédécesseur pour pas bousculer les lecteurs. Puis très vite, je me suis dit bon, allez, bah tiens, c'est bizarre, il y en a pas beaucoup. C'est peut-être qu'il y en a pas beaucoup de femmes chefs. Ah ben non, il y a le super restaurant cambodgien au bas de chez moi. Ben, c'est une dame qui le tient. Je demande son nom et puis on me donne que son prénom. Alors ça aussi, on a remarqué avec Véran cette chose étonnante que les femmes, la plupart du temps en cuisine, on les désigne que par leur prénom. Et même quand parfois j'allais les interviewer, je disais votre nom. Non, non, mon prénom suffit. Non madame, je veux votre nom et votre prénom pour vous nommer comme on nomme les hommes. Là sur Paris, on a une liste de 60 femmes chefs avec leur nom et leur prénom. Et moi ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes d'origine étrangère. En fait, dans cette liste, il y a des Japonaises, il y a des Cambodgiennes, il y a des Sénégalaises, il y a vraiment des gens du monde entier. Donc on combine les deux axes dans cette liste.
Bon, allez, une femme un peu, Nina Simone. Ça vous dit Nina Simone?
Oh oui.
Allez, turn me
on. Grande femme.
Une grande femme.
Like a flower waiting to bloom. Like a light bulb. In a dark room, I'm here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert waiting for rain. Like a school kid waiting for spring, I'm sitting here waiting for you to come on back home and turn me on. My poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one that turned me off. Now you're the only one that can turn me back on. Ooh, the hi-fi's waiting for a new tune. And my glass is waiting for some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come home and turn me on.
Turn Me On de Nina Simon sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde. Nous parlons des femmes en cuisine, des femmes chefs, sommelières, critiques gastronomiques, comme vous, Estherelle Payani, chef comme vous, Julia Sedef-Dian, Olympe Versini. On parlait à l'instant de comment faire la communication et la publicité de ce que l'on est en tant que femme, chef, cuisinière. Est-ce que les réseaux sociaux, ça bouleverse la donne? Est-ce que ça donne, justement, ça, en termes de communication, pour faire entendre parler de soi? Est-ce que c'est une aide, pas une aide? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Julia dit montre Estherelle Payani. Non, Julia, c'est Dev Jean. Je voudrais savoir vous. Est-ce que vous, déjà, vous avez un site pour Bayetta qui va s'ouvrir?
Oui. Non, mais c'est très important. Les réseaux, tout ça. Mais moi, je suis perdue sur ça. Je suis pas du tout à jour. J'ai 23 ans, mais il faut que quelqu'un le fasse pour moi. Parce que moi, j'ai pas envie de perdre du temps avec mon téléphone alors que je suis en cuisine. Donc, il y a quelqu'un qui fait ça pour moi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, en 2018, si on le fait pas, ben, on sera pas plein tous les jours.
Mais puis, on n'est pas connu. C'est très difficile de se faire entendre sa voix si on n'est pas sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis demandé si ça lissait, en quoi ça changeait la donne aussi.
C'est un problème pas lié qu'aux femmes. Enfin, c'est lié pour tous les restaurants, en fait. C'est qu'il y a une prime à l'image aussi. C'est que parfois, on voit un restaurant ouvrir, tout le monde poste le même plat au même moment. Puis on se pointe, on le goûte et on dit, mais ça va pas du tout. Il est très beau, ce plat, mais il est pas bon. Il est pas intéressant. Ça crée aussi des gros effets déceptifs. Ça crée un horizon d'attente beaucoup plus élevé. Puis ça cache l'effet de surprise.
Olympe Versini, vous n'y avez pas, les médias sociaux, les réseaux, les gens arrivaient sans leur téléphone.
Mais on avait des choses qui n'étaient pas les réseaux sociaux. Mais par exemple, un exemple, Agathe Godard dans Paris Match. Si on était cité toutes les semaines, c'était très bien. C'était ça. C'était la liste des sorties, des gens qui sortaient, des gens connus, etc. Donc c'était à peu près la même chose. Il y avait aussi la radio et il y avait la télévision. Et j'ai fait des émissions de cuisine à la télévision pendant 4 ans, une fois par semaine. Malgré tout, c'était une image énorme. C'est l'histoire des réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux, l'image est montrée, ça ne me dérange pas. En revanche, ce qui me dérange énormément, c'est que malgré tout, et ce qui est dur pour les jeunes qui commencent, c'est cette espèce de possibilité aux gens qui n'ont pas la culture de la gastronomie de tout d'un coup dire « Oh, je suis allée, c'était pas bon. Oh, » et de critiquer.
De s'ériger en critique gastronomie.
Voilà, et ça, je pense que c'est quand même assez dur. Qu'est-ce que tu veux dire,
Estherelle Payani, c'est tout.
C'est relativement difficile.
C'est qu'il y a critique et chronique, je dis toujours.
Bien sûr.
Un avis sur Instagram, un billet, c'est une chronique qui dit « moi, je n'ai pas aimé ». Qui n'est pas censé être érigé en avis universel. Moi, quand je travaille pour Télérama, je vais pas au restaurant pour moi, je mange par procuration pour les lecteurs du journal, qui n'ont pas forcément mon âge, qui n'ont pas forcément mes goûts. J'essaye de penser un peu à tout le monde, mais parfois je vais trouver le restaurant très bien parce qu'il correspond à leurs critères et moi m'ennuyer un petit peu. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour moi, je suis là pour eux. Donc ça prend beaucoup plus en considération un ensemble de publics et d'attentes. On se pose sur la question de qu'est-ce qu'attendent les gens à ce rapport qualité-prix dans cet arrondissement, dans cet environnement. C'est une démarche beaucoup plus globale, la critique.
Mais les réseaux sociaux, quand ils sont bien utilisés aussi, c'est un formidable outil de communication parce que qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, si vous avez quelqu'un qui veut raconter, puisque vous êtes concentré, Julia Sedef-Dian, sur votre cuisine, ce qui est bien normal parce que votre sel à vous, c'est quand même les produits, ce que vous racontez dans votre assiette et ses saveurs. Et si quelqu'un sait très bien le mettre en valeur sur les réseaux sociaux, ben on aura juste envie de le découvrir également. Donc c'est un levier qui va lisser et qui va vous donner peut-être une tribune qu'on n'aurait pas autrement ou plus difficilement. Chez Agathe, par exemple, dans le journal, on l'aurait pas. Avec le réseau social, quelques photos et davantage, on peut y aller. Est-ce que ça aide?
Oui, je pense que ça fait venir un autre type de clientèle, ça fait venir du monde. Après, c'est une clientèle parfois plus éphémère, qui papillonne beaucoup plus d'un endroit à l'autre. Il y a ceux qui disent « j'ai fait tel restaurant ». On fait pas un restaurant, on va au restaurant. C'est deux démarches différentes. Après, on peut collectionner les papillons aussi, comme ça.
Oui, mais ça a toujours existé.
Totalement.
Ça, la clientèle éphémère, elle a toujours existé, elle a toujours pas été là, j'allais dire.
Oui.
Elle était là une fois. Les gens qui sont venus dans mon restaurant une fois, c'est tout, qu'on n'a plus jamais revu. En revanche, ça, c'est pas le fond de la clientèle, c'est autre chose. C'est vraiment un plaisir, une attache pour le lieu, pour le, la cuisine qu'on y fait. Moi, j'ai vu dans mon restaurant, dans mon dernier restaurant, des petits-fils de clients que j'ai eu dans les années 70, leurs petits-fils venaient. Donc ça, c'était merveilleux. Est-ce que ça fait deux, trois générations?
Vous alliez dire quelque chose, Julia Sedevjian?
Non, mais on touche des clientèles différentes en fonction du média ou du réseau qu'on... Enfin, moi, je me souviens, au Fab de la Fontaine, j'avais des clients qui venaient d'un certain âge, qui découpaient sur Le Parisien, Le Figaro, des articles. Mais là, tu te dis, il y a une vraie démarche. Enfin, le gars, il a quand même découpé dans le journal l'article qui parle de moi. Et il me l'emmène pour que je lui signe. Et... Alors que sur les réseaux sociaux, clairement, tu le vois une fois. Déjà, la photo, elle a été retouchée 6 fois. OK. Tu le revois 2 fois, 3 fois. Tu dis, bon, ah, faut que j'aille goûter quand même. C'est pas possible, tout le monde m'en parle, je le vois, machin. T'y vas, mais t'as pas les mêmes attentes. Déjà, tu te dis, j'ai vu la photo, je veux manger ça. Tu commandes le même plat. Et tu te rends compte que
la courgette est un peu plus à droite, c'est pas ça.
Mais oui, c'est pas ça. Mais parce que c'est pas ça la cuisine, c'est pas de prendre en photo et de régler l'éclairage. Attends, je vais mettre un peu de brillance. Non, viens sans attente et sois surpris. Laisse-toi faire. Viens dans mon resto et laisse-toi faire et sois surpris si t'as envie d'être surpris. Si t'as été déçu, désolé, on est humain et voilà. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, ça touche une autre clientèle, je trouve, que bah, les journaux papier, que...
Voilà. C'est bien aussi pour découvrir des restaurants quand on vit à l'étranger, également. Julia Sedevjian, vous l'avez dit, vous ouvrez votre restaurant avec 2 associés qui sont des hommes. L'équilibre homme-femme en cuisine.
Moi, j'ai toujours travaillé avec pas mal de femmes. Toujours eu à peu près la moitié de femmes et moitié d'hommes dans mes équipes.
C'est
et
un
j'en
équilibre.
Suis très fière. Parce que ça marche très bien, ça fait un bel équilibre. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Mais les femmes, elles savent ce qu'elles veulent. Moi, quand j'ai des femmes en cuisine qui arrivent, elles savent ce qu'elles veulent. Elles te disent, voilà, moi, je veux faire de la cuisine et je vais tout faire pour y arriver. Et elles ont la rage, quoi. Et elles font tout pour y arriver. Et elles ont même plus d'audace que les hommes, quoi. Mais elles arrivent.
Mais elles se battent toujours. C'est ça qui est étonnant. Elles ne devraient pas.
Mais c'est une profession où il y a de plus en plus de mal à recruter, donc en plus, il va pas y avoir le choix. Hein.
Oui, ça c'est vrai.
Ouais. Ça joue aussi largement à la famille.
Mais dans certains pays, c'est naturel, ça devient naturel. On ne s'étonne pas d'avoir une femme chef, une femme en cuisine, une femme sommelière dans certains pays. Et pour cet équilibre, parce que ce qui m'amuse tout le temps, c'est d'avoir dans les émissions de télévision autour de la cuisine et tout, on a, ah bah ça c'est forcément une assiette féminine, c'est obligé. Est-ce qu'elle existe?
Un vin féminin, une cuisine féminine, ça c'est incroyable.
Donc ça, c'est un autre mythe.
Ah, moi, il y a pas longtemps, j'ai interviewé Amandine Chéniaud, que j'aime beaucoup, qui travaillait au Rosewood à Londres, qui dirigeait une brigade de 50 personnes. J'avais souvenir d'un déjeuner que j'avais fait avec elle, où elle avait fait un tartare de canard. Et il y avait une journaliste en face de moi, quand elle était venue saluer en salle, qui avait dit « Oh là là, c'était très féminin comme plat !» Et moi, j'étais en face, je lui ai dit « Oui, oui, tu portes une veste bleue, ça fait donc de toi un homme. » Et Amandine avait dit « Mais j'en peux plus de cette cuisine féminine, là. » Je la retrouve donc quelques années après, et je lui dis « Alors, la cuisine féminine. » Elle me dit « Finalement, j'ai compris ce que ça voulait dire. »
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Je crois que c'est une cuisine où il y a moins d'égo. J'aime beaucoup cette définition de la cuisine entre guillemets féminine, parce qu'elle me dit « Il y a des hommes aussi qui cuisinent comme ça, finalement. » Et je crois que c'est ça que certains veulent dire en disant « C'est une cuisine féminine. » C'est une cuisine où on cuisine pas pour satisfaire son égo, c'est ce que disait Julia tout à l'heure, c'est qu'on cuisine parce que on fait ça avec son cœur, on a quelque chose à raconter et on met ses tripes sur la table.
Oui, mais il y a aussi des hommes qui font ça.
Mais c'est ce que disait Amandine en disant « Je crois que ce mot-là qu'on met derrière féminin renvoie à cette idée de cuisine avec moins d'ego, qui concerne aussi des hommes.
Julia Sedevjian.
Enfin, moi, j'ai eu des chefs masculins qui faisaient une cuisine féminine, mais parce qu'ils sont délicats, parce qu'ils ont une approche avec le produit qui, moi, ça m'a toujours fait épater. Quand tu vois un chef qui fait 1m90, qui a des grosses pattes, et puis il reçoit sa petite carotte, et puis il est là, il la bichonne. Mais c'est ça qui est magique en cuisine, c'est ce rapport avec les produits.
C'est la sensualité. Il peut être d'homme et de femme.
Un bel équilibre, en tout cas, qui est un peu impératif. Est-ce que vous rêvez, Julia Sedevjian, de ce que vous serez dans... Déjà, est-ce que vous avez des modèles dans votre vie de cuisinière, chef?
Oui, on a tous des modèles, mais c'est vrai que Anne-Sophie Pic, pour moi, c'est le must.
Mais qu'est-ce que vous trouvez?
Elle me laisse bouche bée à chaque fois. Voilà, on la voit arriver, c'est maman, quoi. Elle, et en fait, ce qui est hallucinant avec cette chef, c'est que après, je sais pas combien de temps ça fait qu'elle exerce la cuisine, mais on dirait qu'elle est pas sûre d'elle encore, alors qu'elle te sort des trucs au bourgeon de sapin et t'as envie de lui dire, non, mais excuse-moi, pour moi, c'est pas une évidence de mettre l'artichaut avec le bourgeon de sapin. Et elle le dit d'une telle façon. Et elle dit, enfin, juste respect, quoi. Moi, c'est mon modèle, c'est, elle s'est battue. Et aujourd'hui, t'as l'impression que elle se rend pas compte de ça, en fait. Mais pour moi, ça a toujours été mon modèle.
Et... c'est de l'ouverture et de l'amour dans l'assiette, mais c'est quand même ce que vous faites également, ce que vous avez fait Olympe également. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster? Dites-nous. On a le droit d'avoir juste le nom d'un plat ou alors quelque chose qu'on va pouvoir manger chez vous, chez Bayetta.
Des bisous.
Des bisous.
Suspense,
sur ce bisou magique, le goût du monde se refaire. Merci beaucoup à vous, Julia Sedef-Dian. On parlera bien sûr de l'ouverture de votre restaurant sur notre site internet également, donc dans le quartier de Saint-Germain, Bayetta. Merci Estherelle Payani, que l'on retrouve chaque semaine, on l'a dit, ou sur le web également, bien sûr, telerama.fr. Olympe Versigny, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, de vous être déplacé. Et vous, de l'autre côté du poste, eh bien, racontez-nous quelle place a la cuisine dans votre vie. Femme chef, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'un rêve? Est-ce une inspiration? Qu'avez-vous pensé justement des parcours de nos invités aujourd'hui? Dites-nous tout sur RFI.fr, sur les réseaux sociaux. Et oui, parce que nous en sommes aussi. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et à Cécile Benissi, bien sûr, qui a réalisé et mis en onde cette émission, que vous pouvez maintenant podcaster, partager, déguster, parce que nous aussi, elle se mange, cette émission. Elle se déguste via notre site ou l'application Pure Radio. Reste à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous. Tout de suite, les infos sur RFI.